Très bonne soirée à toutes et à tous, vous écoutez Radion, il est un peu plus de 21h, merci de nous rejoindre pour le 268e numéro de Wagon Livre. Ce soir, retour sur la 9e édition de Livres en Vigne qui s'est tenue les 24 et 25 septembre dernier entre Beaune et Dijon au château du Clos de Vougeot. Un salon qui a rassemblé une centaine d'écrivains de littérature générale et d'auteurs sur la thématique du vin et de l'art de vivre. Une fête du livre au cœur du vignoble bourguignon créé par Evelyne Philippe, que nous saluons d'ailleurs ce soir avec beaucoup d'affection. Ouvrons cette émission avec trois auteurs des éditions de l'Armançon présents à Livres en Vigne. Commençons, si vous le voulez bien, avec un premier roman intitulé « Les racines au cœur » sous la plume d'Agnès Panet que nous avons rencontré. Agnès Panet à notre micro.
J'ai 53 ans, je suis vigneronne dans le Mâconnais et j'ai commencé d'écrire ce livre il y a plus de 23 ans maintenant. Et puis, il est resté au fond d'un tiroir. Enfin, les premiers chapitres sont restés au fond d'un tiroir très longtemps parce que notre exploitation et nos trois enfants ont eu la priorité de mes préoccupations. Donc, et puis, j'ai repris il y a quelques années. J'ai repris et j'ai essayé de l'amener au bout. J'y suis arrivée, enfin.
Et alors, donc, un petit mot sur l'intrigue de ce roman dont je rappelle le titre, hein, « Les racines au cœur » et c'est aux éditions de l'Armançon.
Mais en fait, il est question de transmission, la transmission du patrimoine, bien sûr, puis la transmission du savoir-faire, de la tradition, et avec toutes les difficultés que ça suppose, parce que transmettre ce métier et l'amour de ce métier, c'est pas toujours facile. Si celui à qui on le voue reçoit ça avec assez de passion, pour être capable de l'assumer, ça se passe bien. Et si la passion n'est pas là, ça peut être un fardeau terrible. Voilà. Et donc cette histoire parle un petit peu de ces deux aspects-là, à travers plusieurs personnages.
Et voilà. C'est donc votre premier roman.
C'est mon premier roman, oui, absolument.
Marc, un petit complément de commentaire par rapport à ce que vient de dire Agnès Panet.
Alors, on a publié plusieurs livres sur le vin, donc aux éditions de l'Armançon, mais à ma connaissance, mais je me trompe peut-être, c'est l'un des premiers écrits par, en l'occurrence, une viticultrice, et parce qu'il y a des gens qui écrivent sur le vin, il y a des gens qui font ce métier pas facile et qui écrivent dessus, et c'est vraiment, je suis très très heureux qu'on puisse apprendre plein de choses sur ce métier.
Alors après le Mâconnais, orientons-nous vers la Franche-Comté avec une jurassienne qui est devant nous. Alors elle est passée dans une longue émission de Wagon Livre, elle est passée également dans Caractère de Bourgogne, l'émission que tu animes sur RCF Dijon, il faut le dire, une émission que j'apprécie beaucoup, mais c'est une par mois.
C'est une par mois.
Une par mois. Alors parlons de Anne Brobel d'Orsmann. Alors Marc, c'est aussi pour toi un très gros coup de cœur que le roman de Anne qui a pour titre Livre-Cœur, toujours aux éditions de l'Armançon.
Alors pour Anne, moi j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que j'ai lu son manuscrit et je lui ai téléphoné pour lui dire on ne sait pas si on va éditer mais c'est super. Voilà. Et ça, un éditeur en général ça ne le fait pas parce que ça peut donner des faux espoirs, etc. Et coup de bol, tout le monde a dit faut l'éditer. Enfin, il n'y avait pas de question. Voilà, alors je ne sais pas si le terme violent en termes d'émotion, c'est vraiment un coup de poing, hein, et c'est vraiment un roman que j'ai trouvé extrêmement émouvant, prenant,
qui nous amène sur des lourds secrets de famille.
Je vais la laisser en parler après tout flûte, hein, elle le fera très bien.
Anne Brobel d'Orsmann, bonjour Anne. Alors Livre-Cœur. Oui. Présentez-nous un peu ce roman. Alors, je rappelle que, bien sûr, on avait fait la rentrée de Wagon Livre avec vous. C'était un grand bonheur, non seulement de lecture, mais aussi de vous recevoir devant ce micro. Je vous donne l'opportunité de rappeler l'intrigue sans trop en dire, puisqu'en fait, c'est un roman où se terre un gros secret de famille.
Oui, alors c'est pour moi un roman de réconciliation, un roman d'amour aussi, même si c'était un amour peut-être violent. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui convienne, mais oui, c'est fort, tout au moins. C'est un amour aussi d'écho, C'est-à-dire que c'est toutes les répercussions que peut avoir un passé de famille qui comme ça, se répercute sur les générations suivantes. Et donc, c'est ces deux aspects, pour moi, qui étaient importants de mettre dans ce livre. C'est-à-dire, on découvre la famille avec ce lourd secret, sans que ce secret soit su, sinon c'est plus un secret, bien évidemment. Et on voit au départ ce qui s'est passé pour eux, toute la difficulté qu'ils ont à vivre ensemble. Et doucement, grâce notamment à une petite fille, ce secret remonte à la surface.
Voilà. Un roman en deux époques, hein, époque contemporaine, oui. Une époque qui nous ramène à la captivité d'un Français dans une ferme en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'en dira pas plus, en tout cas. Anne Brobel-Dorsman, est-ce que vous travaillez au prochain roman? Car je crois qu'il est attendu avec impatience.
J'aimerais bien travailler plus. Il est commencé. Voilà. Et j'espère avoir un peu plus de temps bientôt pour pouvoir m'y remettre avec plus d'ardeur et plus de temps, tout simplement. Voilà.
Merci Anne Brobel-Dorsman. Rappelons donc le titre de votre roman, Livre-Cœur, et c'est aux éditions de l'Armançon. Alors sur le prochain roman dont il va être question, Marc, on a sur la couverture une photographie en noir et blanc du port du canal de Bourgogne à Vénarey-les-Laumes. Il s'agit d'un roman d'Ignacio Catalan qui nous avait beaucoup habitués à des romans médiévaux, romans médiévaux qu'il a maintenant un petit peu abandonnés, hein. Il est rentré dans d'autres styles, et c'est Aline, fille du canal. Un petit mot sur l'écrivain d'Arnay le Duc, enfin celui qui partage son temps entre Arnay le Duc et Paris.
Voilà. Alors on a eu donc deux premiers romans là, Livre-Cœur et Les Racines au cœur, et maintenant on est sur un auteur qui a beaucoup publié à l'Armançon, hein, des livres médiévaux, mais pas seulement, pas que, hein, il y en a eu d'autres. Je sais à combien on en est d'ouvrages à l'Armançon. 55, voilà. Non, c'est
5,5.
Voilà. Et donc ce roman, et donc ça se passe sur le canal de Bourgogne, et c'est comme d'habitude avec Ignacio, à la fois un roman qui est très prenant, mais aussi on apprend plein de choses techniques, je dirais ça comme ça, c'est-à-dire comment ça fonctionne un canal, tout simplement, parce que c'est plus compliqué qu'on imagine.
Alors en parcourant la bibliographie, ce serait le 12e ouvrage de Ignacio Catalan aux éditions de l'Armançon. Bonjour cher Ignacio, c'est toujours un plaisir de se retrouver, on se croise comme ça dans des salons, notamment Livre en Vigne.
Un plaisir partagé.
Merci Ignacio. Alors Aline, fille du canal, intrigue, décor, cadre, quelques informations sur ce roman.
Ben écoutez, les informations, en fait j'ai vécu très très longtemps à proximité du canal, et un jour, ou tout récemment, il y a 2 ans maintenant, j'ai eu l'occasion de traverser la voûte qui est ce tunnel qui relie les deux, ce qu'on appelle le bief de partage du canal, la partie montante et la partie redescendante sur la Saône. C'est un tunnel qui fait 3,333 km, disent les Bourguignons, mais qui est assez angoissant quand on est dedans, parce qu'on est sur une promenade de 3/4 d'heure, il y a une demi-heure de canal, de tunnel. Et ça m'a intrigué d'avoir traversé ce truc que je connaissais pas, alors que j'ai habité très très longtemps quelques kilomètres. Et ça m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire du canal, à sa conception, à sa construction, son percement, etc. Et tous les événements qui ont pu se produire autour. Et j'ai découvert plein de choses, notamment que c'était une voie d'eau excessivement active. Donc de la date de son percement jusque, disons, avant la Deuxième Guerre mondiale, après ça s'est fortement ralenti, alors qu'aujourd'hui on sait que, à part quelques bateaux de plaisance, il ne passe plus personne sur le canal de Bourgogne, quoi. Mais à cette époque-là, c'était tellement actif qu'il s'était construit quantité d'entreprises le long des rives du canal, que ce soit de la rive de Lyon à celle de la Saône. Et tout ça fonctionnait grâce à cette voie d'eau. Donc c'était intéressant de raconter ça. Mais moi, je suis un romancier, je suis pas ni un historien, ni un polytechnicien. Donc c'est un roman avec une histoire d'amour, bien sûr, avec de la passion, pas de cap et d'épée, puisque ça se passe au XXe siècle.
C'est après la Première Guerre mondiale.
Ça se passe, après année 20, année 30. Voilà. Et c'est l'histoire d'un couple de mariniers, un peu atypique, mais bon, on saura le pourquoi il est atypique en lisant le roman. Mais comme l'a dit un de vos confrères de Lyon, d'ailleurs, dans une critique, il a trouvé que le héros du roman était quand même le canal de Bourgogne.
Alors c'est le canal et ses usagers, hein. Je m'appuie sur la quatrième de couverture, Ignacio, éclusier, garde de navigation, chartier qu'on appelait Canalou,
les gens qui vivaient du... Ça a commencé par les chartiers qu'on appelait Canalou, et puis ça s'est étendu hors mariniers à tous les gens qui vivaient autour du canal, par le canal et pour le canal. Donc les éclusiers, les gardes des chemins de halage, etc., des rives, etc. Voilà, c'est étendu au Canalou. Les mariniers, eux, s'appelaient eux-mêmes et étaient appelés par les éclusiers notamment, les gens de pas d'ici. Parce que c'est des gens qui vivaient toute leur vie sur leur bateau et qui n'avaient plus aucun point d'attache nulle part dans le pays, quoi. Et la famille vivait sur ce bateau, donc ils s'étaient baptisés les gens de pas d'ici.
Voilà. Merci Ignacio.
Sans que ce soit péjoratif de leur part, ni de la part de ceux qui les citaient comme ça, je tiens à le préciser.
Donc votre dernier roman aux éditions de l'Armançon a pour titre Aline, fille du canal. Un petit mot complémentaire, Marc ?
Ben, je les écoute tous les trois et il y a une image qui me vient à l'esprit. J'avais discuté avec la personne qui exploite les carrières de Comblanchien. Et je lui disais, mais à force de taper dans la colline, ça va bien s'arrêter. Il dit, non, derrière moi, j'en ai encore pour 300 ans. Et je pense qu'en écoutant ces auteurs, moi, je suis convaincu que la Franc-Bourguignon-Comté a encore pour au moins 300 ou 400 ans de gisement, de romans, d'idées, d'histoires et de choses à raconter.
Alors, Marc Ray n'est pas que le co-gérant des éditions de l'Armançon, c'est aussi l'animateur radio, je l'ai dit, l'émission Caractère de Bourgogne sur RCF Dijon, d'une part, et d'autre part, Marc Ray est écrivain, récompensé par le prix du Morvan, alors il y a quelques années.
Il y a quelques années, et puis le prix du Lions Club aussi, un petit peu plus tard.
Alors, le Noël de Gargantua, Marc, c'est ton dernier
écrit. C'est le dernier qui vient de sortir, oui.
Où tu imagines le retour de Gargantua.
Voilà, le Gargantua de Rabelais, parce que c'est un texte que j'aime beaucoup, enfin l'original. Et j'imagine qu'il revient avec son goût pour la bonne chair, sa stature et ses plaisanteries, et qu'il se promène dans la Bourgogne d'aujourd'hui. Donc il reconstruit les murs de ce mur en auxois qui a tendance à tomber. Il arrête les voitures sur l'autoroute pour leur demander pourquoi ils roulent si vite. Il rencontre le maire de Dijon. Il participe à un match de rugby parce que c'est quand même quelqu'un d'assez costaud. Et quand il est fatigué, il finit sa sieste à côté d'Henri Vincenot, tout près de Pouillon-d'Auxois.
Et il fait même étape à Avallon où il rencontre un journaliste.
Oui, il rencontre. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, oui. Effectivement, je t'ai mis en scène dans la scène où tu l'interviews, mais il arrive à te faire tellement boire que tu finis par dormir.
Retrouvez toutes les aventures de Gargantua en Bourgogne sous la plume de Marc Rosanski que vous venez d'entendre à l'instant dans ce reportage. Si vous n'avez pas pu noter toutes les références des romans dont il vient d'être question, vous les retrouvez aisément via Internet sur le site d'archives de votre émission littéraire, quelques clics, www.yannickpetit.fr. Petite virgule musicale avant de vous plonger avec bonheur dans un savoureux roman où le tango tient une place essentielle. Vous entendrez en effet Akli Tadjer, romancier venu à Livres en Vigne présenter son dernier roman, La Reine du Tango, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Un conte moderne, drôle et mélancolique. En tout cas, c'est dans quelques minutes. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radium.
Le soleil s'éteint sur nos destins. On court à l'essai, à perte au pire. J'ai cru que tu m'aimerais pour un temps, mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber. Laisse la nuit. Laisse-moi tomber, laisse-nous tomber. C'est
et oublie-moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Petit clin d'œil, il y a une revue trimestrielle que nous apprécions beaucoup dans Wagon Livre, c'est Pays de Bourgogne. Le dernier numéro, le numéro 248, disponible en kiosque et en maison de la presse, s'intéresse au repas gastronomique des Bourguignons. Et c'est effectivement un très très beau dossier dans lequel on salive autour des escargots de Bourgogne, de la moutarde, des viandes, des fromages, des légumes de notre belle Bourgogne. C'est Pays de Bourgogne avec, comme je l'ai dit, ce dossier consacré au repas gastronomique des Bourguignons, actuellement en vente en librairie, maison de la presse et kiosque. Akli Tadjer est l'auteur de 8 romans, dont 3 ont été adaptés pour la télévision. Son dernier roman, aux éditions Jean-Claude Lattès, a pour titre « La reine du tango ». La reine du tango, c'est la mère de l'héroïne, Suzanne, qui a grandi seule avec cette mère extraordinaire. La reine du tango, c'est une danseuse magnifique qui a connu tous les succès, toutes les gloires. Malheureusement, elle est disparue trop jeune et elle a laissé à Suzanne, sa fille, sa passion de la danse. Alors de cette enfance, Suzanne n'a gardé que le tango, qu'elle enseigne d'ailleurs sans oser le danser. La vie de Suzanne bascule le jour où elle rencontre un petit voyou de 25 ans, Yann, pour lequel elle est prête à tout. Akli Tadjer à notre micro.
Au début du roman, on se dit que c'est l'histoire d'une jeune prof de tango qui donne son cours un peu plan-plan à des gens qui apprennent le tango, parce que c'est quand même une danse qui revient à la mode, bien que ce ne soit une danse qui ne soit jamais perdue. Parce qu'en fait, on apprendra plus tard, et c'est un peu la gageure de ce roman, c'est que le tango, c'est plus qu'une danse, c'est... C'est un art de vivre, c'est une histoire et c'est en soi un univers.
En fait, Akli Tadjer, j'ai relevé toutes les expressions qui caractérisent le tango. Vous dites que c'est la danse de la passion, oui. C'est la danse de la divination, c'est la danse du toucher et de la fusion des corps, et c'est la danse du partage. Alors vous-même, quel est votre rapport avec le tango ?
Moi, mon rapport, je l'ai découvert déjà il y a très longtemps parce que je connaissais un comédien qui s'appelait Claude Melki et que j'avais rencontré sur l'adaptation d'un de mes romans et qui était un passionné de tango. Et voilà, et je le voyais danser comme ça. Et parfois, il dansait tout seul avec un ballet et je lui disais, c'est intéressant. Tu danses super bien, mais ça serait bien que tu aies autre chose qu'un ballet entre les mains, quoi. Ah, il me dit, moi, je cherche une moitié. Et j'ai souvent rencontré des profs de tango plus tard. Moi, je suis pas un grand danseur de tango. Je vais pas vous la raconter. Mes personnages dansent beaucoup mieux le tango que moi. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que sinon, je serais pas écrivain, je serais prof de tango. Et donc, j'ai assisté à ça. Et puis voilà, c'est plus qu'un spectacle pour moi. Quand on voit des gens danser le tango, en fait, je vois une histoire derrière eux. Et puis, ce qu'il y a de magique, c'est que le tango, c'est une conversation sans parole. Tout passe par le regard. Et le magique du magique, si je puis me permettre, c'est que dans le tango, vous avez à peu près 20% de pas qu'il faut apprendre, de combinaisons, de petites chorés. Et les 80% qui restent, c'est de l'impro. Alors si vous vous entendez pas très très bien avec votre partenaire de danse, vous pouvez être le meilleur individuellement, ça foire à tous les coups. Quoi. Vous serez jamais l'élite.
C'est la raison pour laquelle le tango est bien la danse du partage, et c'est une danse où les deux partenaires doivent se comprendre. Bon, il y a quand même l'importance de l'homme, ce qu'on appelle le guideur.
L'homme est c'est le guideur, important. Et on croit qu'il domine. C'est comme dans la vie, quoi. Dans un couple, on croit que c'est l'homme qui commande, et en fait, c'est la femme qui tire les ficelles. Et alors, le problème de mon héroïne, c'est qu'elle est seule. Et c'est ça qui, moi, m'a touché, parce que ça, je l'ai vu, c'est que j'ai rencontré une prof de tango, donc qui donnait des cours de tango à des couples qui s'aimaient, leur apprenait la sensualité, le rapport au corps à l'autre.
Et la découverte de son propre corps aussi, d'une certaine manière.
De son propre corps, de comment savoir bouger et comment vivre à travers une musique. Et ce qu'il y avait de très paradoxal, c'est qu'elle était seule dans la vie. Et je me disais, mais comment c'est possible que quelqu'un qui passe sa vie dans la fusion des corps des autres, à leur apprendre l'amour l'un de l'autre, comment on peut rentrer seul le soir à la maison? Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, pour moi, c'est un personnage de roman, quoi.
Il y a dans votre roman un petit rappel historique des origines du tango. En fait, c'est une danse qui vient donc de l'Argentine, bien sûr, l'Amérique du Sud, et ça vient finalement des milieux populaires, des bas-fonds à l'origine, si j'ai bien compris.
Vous savez, les gens qui sont partis peupler l'Argentine, c'était les bas-fonds, on dirait aujourd'hui la racaille, quoi. Donc ils sont partis, il y avait des Espagnols, des Italiens, il y avait des Noirs, des descendants d'esclaves. Et d'ailleurs, vous savez d'où vient l'expression tango ? C'est que les esclaves noirs qui étaient partis dans les bagages avec ces petits blancs qui étaient venus, qui sortaient des bas-fonds, en fait, ils étaient dans des espèces de cales, de containers qui s'appelaient des tangos. Parce que tangé. Et donc voilà, c'est de là. Et c'est, parce que c'est autant africain que sud-américain, cette danse. Alors au début, c'était donc la danse des bas-fonds, des bordels. C'était la danse guap. Quand on dit une petite guap aujourd'hui, c'est un petit voyou. Et guapo, ça vient de là. Et donc, voilà. Et petit à petit, alors au début, c'était une danse entre hommes. Parce qu'il n'y avait pas de femmes. Puis après, ils ont fait venir des putes, c'est devenu des bordels, et c'est vraiment devenu la danse des bas-fonds. Et c'est devenu une danse bourgeoise en arrivant à Paris. Une danse de salon.
Danse d'élégance, en fait.
Voilà, d'élégance, de salon en arrivant à Paris. Donc, c'est une danse, c'est une culture qui... Alors, c'est pas innocemment, à mon avis, que c'est une danse qui a traversé... C'est une danse du 19e siècle, fin du 19e siècle, qui a traversé le 20e siècle, même avec un peu... Et des bas et des hauts, c'était une danse un peu kitschissime, parfois un peu ringarde, mais qui a perduré. Et maintenant, ça revient à la mode, parce que je pense que c'est parce que c'est une danse qui a une vraie histoire. Et que quand on commence à rentrer dedans, on s'intéresse à la culture, il y a du savoir-vivre là-dedans.
En tout cas, il y a aussi un tango un peu spectacle, danse spectacle.
Ah ben, il y a des compétitions, c'est incroyable. Vous voyez, il y a des concours, mais voilà, c'est les Jeux Olympiques, quoi.
Alors, j'ai relevé cette phrase, Akli Tadjer, dans votre roman, dont je rappelle le titre, hein, La Reine du Tango, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. En tango, la bienséance veut qu'on ne danse pas plus de 3 fois avec la même personne. Alors, ça veut dire que c'est des histoires qui ne durent pas.
Bah, en fait, oui, ça peut être des histoires qui ne durent pas, mais c'est surtout pour ne pas s'habituer à l'autre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est beaucoup dans l'improvisation. Si vous avez l'habitude de danser toujours avec la même personne, finalement, vous finissez par la connaître. Tandis que si vous changez... Alors, comme il y a beaucoup d'improvisation, donc on risque de vous surprendre. C'est ça aussi l'intérêt du couple. Et c'est ça qui fait que, d'un seul coup, un danseur ou une danseuse... vont être uniques parce qu'ils vont avoir l'étincelle, la flamme qui fait la différence.
La fameuse divination aussi.
La divination des corps, voilà, c'est ça, le ressenti. Et c'est pas tout le monde qui l'a, ça.
Alors, il est question dans votre roman d'un bal tango le plus secret de Paris, c'est le macro nostalgique. Mmh. Ça existe réellement ou c'est pure invention ?
Ça existe dans mon roman, mais je vais vous dire pourquoi ça existe, pourquoi je l'ai appelé comme ça finalement.
Le macro nostalgique.
Ouais, ça vaut le coup quand même,
ah,
hein,
oui.
D'aller danser au macro nostalgique. En fait, comme la plupart de ces migrants, ils avaient fini tenanciers de bordel. Et le peu de ces macs qui sont revenus en France, ils avaient tellement de la nostalgie de cette danse, de cet univers, de ces jolies femmes. Quand ils sont rentrés à Paris, ils ont monté des boîtes à tango. Et moi, je trouvais que c'était parfait qu'il y en ait un qui appelle ça le macro nostalgique. Nostalgique de son histoire passée, et au sens propre et au sens figuré.
Si je vous dis, Akri Tadjer, que votre roman raconte en fait une romance à haut risque, vous êtes d'accord ?
À haut risque, parce que le compagnon de danse que Suzanne va se trouver, c'est un compagnon à haut risque.
Un petit voyou de 25 ans,
voilà,
qui est prénommé Yann.
Qui n'a rien à foutre du tango, qui considère que c'est une danse un peu ringarde, disons. Mais en fait, il va tellement tomber amoureux d'elle qu'il va aussi épouser le tango.
Et d'ailleurs,
c'est ça qui est magique. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît dans une histoire d'amour. Parce qu'au final, c'est aussi une grande histoire d'amour.
Alors, c'est aussi une belle histoire. Alors, on ne va pas trop raconter, mais il y a un commissaire de police qui demande des cours privés, des cours particuliers. Donc, Suzanne, professeure de tango, se déplace chez Georges, hein, je crois que c'est son prénom.
Gilbert.
Et effectivement, elle lui apprend le tango parce que lui, pour la Saint-Sylvestre, a besoin de savoir danser le tango. Mais je n'en dis pas plus.
Voilà. Il a une motivation très, très, très personnelle pour apprendre à danser le tango. Mais alors à chaque fois, elle est un peu inquiète parce qu'à chaque fois qu'elle a donné des cours de tango particuliers, elle est tombée sur des gens un peu zinzin, quoi. Il y a toutes sortes de pervers, toutes sortes de tordus. Finalement, on comprend son angoisse d'arriver chez quelqu'un qui dit « je veux des cours privés chez moi » et tout, parce que c'est quand même une jeune femme, quoi. Et donc, elle raconte qu'elle est tombée aussi sur toutes sortes de détraqués. Donc lui, il est assez gratiné dans son genre.
Il est impressionnant, mais oui, il est assez. Et puis c'est un grand jaloux, mais je n'en dis pas plus. Akri Tadjer, il y a aussi, il faut le souligner, la vie de Suzanne, c'est la vie d'une jeune professeure de tango qui a perdu donc une mère qui était absolument elle-même remarquable, cette fameuse reine du tango.
Et qui lui a transmis sa passion. Vous voyez ? Et c'est peut-être la pire des choses, parce que quand vous avez comme ça et votre mère et en plus une personne qui était admirée de tous, qui a eu tous les plus grands succès, tous les plus grands amours, la vie et la vie de star, quoi. Et quand on hérite de cette passion, on se dit est-ce qu'on va être à la hauteur de ça, est-ce que je pourrais un jour dépasser ma mère, quoi. Alors, en plus elle est née de cette mère qui était la plus grande des danseuses de tango, et elle est née d'un père inconnu. Alors quand vous êtes née de quelqu'un très connu et du néant derrière, ça vous laisse un abîme pour essayer de vous construire.
Et d'autant plus que cette mère disparaît dans des conditions dramatiques que le roman expliquera d'ailleurs par la suite. Alors il y a Diego qui est finalement une figure un peu tutélaire. Suzanne dit de Diego, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon unique repère.
C'est sa mémoire. C'est la seule personne qui peut lui parler de sa mère, qui peut lui parler de ses histoires et qui peut-être peut lui parler de son histoire.
Oui, elle. C'est lui qui a la clé de l'histoire familiale de Suzanne.
Voilà, qu'il a un peu adopté comme sa fille, quoi.
Alors en exergue à votre roman, Akri Tadjer, vous avez choisi une citation de Kurt Cobain. Elle prend tout son sens d'ailleurs sur la fin du roman. La citation de Kurt Cobain, c'est « Il vaut mieux brûler franchement que de s'éteindre à petit feu ».
Oui.
Et puis alors.
Je la fais mienne aussi. Hein. Je pense qu'il vaut mieux. Comme on n'a qu'une vie, il vaut mieux. Vaut mieux y aller à fond qu'essayer de s'économiser alors qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain.
Suzanne, lorsqu'elle danse avec le beau Yann, qui est un fiefé voyou, elle dit « Je vois briller dans ses yeux l'étincelle, la flamme et le grand incendie. » Et le grand incendie, je n'en dis pas plus, mais
voilà, c'est la métaphore du roman.
Absolument.
Mais c'est aussi... Alors, ce qui est drôle, c'est que cette métaphore d'allégorie de la vie poussée à son paroxysme, elle la vit. Elle l'a vécu de par sa mère, elle la vit aussi par procuration en donnant des cours aux autres. Et en fait, toute sa vie, elle cherchera ça, elle aussi. L'étincelle, la flamme et le grand incendie dans un amour possible.
Et d'ailleurs, Dieu aime le tango, Dieu est un danseur de tango.
Mais je pensais, quand j'ai écrit ça, j'ai pensé à Gainsbourg. Dieu est un fumeur
de la vanne.
De gitane.
Ou de gitane.
Ouais, je me suis dit. Bon, puisque Dieu fume les gitanes, il peut aussi danser le tango, c'est pas un, hein, il peut tout faire.
La reine du tango, aux éditions Jean-Claude Lattès, c'est le titre du dernier roman de Akli Tadjer que vous venez d'entendre dans Wagon Livre. Comme je vous l'ai dit, un conte moderne, drôle et mélancolique. Je tiens à dire qu'Akli Tadjer a reçu cette année le prix Nice Baie des Anges pour ce roman. Nouvelle petite pause musicale dans votre rendez-vous culturel et littéraire. Et on se retrouve juste après avec Jérôme Attal pour son roman Les Jonquilles de Green Park. Très bonne soirée sur Radio.
Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. 9 jours, la vie c'est du velours, et l'éternité, une nécessité. Jour 10, variation du délit. Que voudrais-tu faire? Une balade en mer. Chaque jour, dépendance à l'amour. Pas de danse autour. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Celui qui s'efface. Quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient. Dans la poitrine, chaque jour dépendance à l'amour, pas de danse autour. Quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface. Quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Le 25 septembre dernier, lors de la dernière journée du salon Livre en Vigne qui s'est tenu au château du Clos de Vougeot, nous avons rencontré Jérôme Attal. Jérôme Attal est parolier et écrivain. Son dernier roman, Les Jonquilles de Green Park, nous emmène à Londres, bombardé durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est à travers le regard d'un garçonnet de 13 ans, Tommy, que nous l'accompagnons dans son adolescence. Jérôme Attal à notre micro.
J'avais envie de faire un roman très spielbergien sur le refuge, parce que en fait c'est vraiment un roman sur le refuge, parce qu'il y a des bombes qui tombent, comme vous l'avez bien rappelé. Hitler a envoyé des tonnes de bombes sur Londres. Tous les jours il y a des gens qui disparaissent, des maisons qui disparaissent, et ce petit garçon a envie de garder une vie de petit garçon dans cette famille normale, et ils ont tous envie de se battre et de préserver leur mode de vie. Et c'est surtout ça, c'est le thème aussi de ce livre, c'est comment préserver son mode de vie face à la barbarie qui approche.
Oui, effectivement, vous l'avez dit, Jérôme Attal, c'est la jeunesse tout de même, les facéties, la camaraderie, ouais, les complicités qui triomphent dans une affaire d'adulte que les enfants comprennent tout de même assez bien. Tommy fait preuve d'une certaine maturité, il a donc 13 ans,
ouais, 12-13 ans,
un tout jeune adolescent qui a tout de même des ambitions, parce qu'il veut devenir écrivain.
Ouais, il veut devenir écrivain, mais parce que j'ai l'impression qu'un livre, mais aujourd'hui encore plus dans ces périodes un peu troublées, ce sont des refuges. Et là, il y a le refuge pratique de se protéger des bombes, et il y a ce refuge aussi de par le rêve, par l'échappatoire, par la lecture, d'échapper à ce qui arrive. C'est vraiment un livre sur le refuge, et Tommy veut c'est aussi pour ça que j'aime cette période de Londres. J'aime Churchill qui s'est donné un souffle épique à son peuple. Il y a vraiment chez les Anglo-Saxons aussi une espèce de, comment dire, d'enthousiasme par rapport à leur conditions misérables. Ils ont envie de triompher des épreuves, et ils ont envie de triompher de l'adversité et aussi du malheur qu'on leur fait subir.
Jérôme Attal, vous parlez de Churchill. C'est vrai qu'il est une figure tutélaire, protectrice, sorte de père de la nation, en lequel Tommy place toute sa confiance. Enfin, c'est son héros aussi.
Ouais, c'est que c'est comme un super héros, mais c'était aussi l'idée de faire un parallèle avec aujourd'hui. Moi, j'aurais envie qu'en France, on ait des Churchill, on ait quelqu'un qui, comme ça, puisse nous donner de l'inspiration, du souffle. Et c'est vrai que quand on regarde nos politiques, on trouve pas forcément de Churchill qui arrive à donner aux individus et aux citoyens français de l'élan et du souffle.
Alors, ceci dit, au moment des bombardements, Churchill n'a pas grand-chose à proposer à son peuple, si ce n'est que des larmes, de la sueur et du sang.
Ouais, c'est ça, mais en même temps, il est sur le terrain, il est là, il galvanise les habitants de Londres, il trouve des solutions concrètes, et puis surtout, il arrive à donner aussi une dimension poétique à la politique, et à redonner de l'espoir aux gens, et la forme de résistance, ça passe aussi, j'ai l'impression, par une manière de continuer à rêver, et notamment pour ce petit garçon, c'est sa manière de résister à lui, c'est de continuer à voir ses copains, continuer à tomber amoureux, continuer à imaginer un avenir dans lequel il serait écrivain, et surtout continuer à avoir une vie normale malgré l'avancée des barbares.
Et ne pas quitter donc le monde de l'enfance. Est-ce que d'ailleurs c'est pas la première patrie des écrivains, l'enfance, chez Jérôme Attal?
Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire que moi, c'est le genre de littérature aussi que j'aime. J'aime Salinger, j'aime Fitzgerald. Ce sont des gens qui. Et au fait, peu importe l'âge de mon personnage, j'ai l'impression que quand on ouvre un livre ou quand on est préparé à vivre des aventures ou quand on va au cinéma aussi, on se met dans un super personnage de soi-même, et on est emporté par une espèce de souffle épique à 12 ans ou à 40 ou à 50 ou à 60.
Alors, au souffle des bombes, il y a le souffle épique qui traverse ce roman de l'enfance, qui rappelle effectivement cette littérature qui met en scène des jeunes gens, des jeunes Américains, littérature britannique. Alors, c'est pas Dickens, non. Mais là ce serait un Dickens plus enchanté quand même,
oui,
votre roman.
C'est un Dickens plus heureux, mais j'avais très envie de faire un roman très spielbergien, c'est-à-dire sur la famille, sur la protection, sur le refuge, et sur le côté soyons, épaulons-nous dans l'adversité, et surtout essayons de garder ce fameux moral britannique dont parle
l'humour
Churchill.
Aussi, hein,
et l'humour, la distance, l'humour. Et oui, l'humour, je pense que c'est absolument obligatoire. Voilà. Mais c'était vraiment l'idée de parler de la situation d'aujourd'hui qu'on vit en France. Moi j'habite Paris et je trouve que la ville est de plus en plus étouffante et insupportable à vivre parce que les gens sont angoissés, les gens sont prêts à se battre pour un coup de klaxon. Et puis il y a la menace quand même permanente des attentats. C'est un climat vraiment très, très étouffant. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, donc c'était vraiment l'idée de faire un roman qui donne avec une distance, un humour qui nous sorte de l'adversité.
Revenons à l'humour de Churchill. J'aimerais que vous partagiez avec nos auditrices et auditeurs. Alors, je pense que c'est authentique, cette histoire du premier socialiste de l'histoire.
Ah oui, au moins on lui a attribué. Alors, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, parce qu'on lui a attribué plein de bons mots qu'il a pas vraiment dit au final. Mais oui, il racontait, ou on lui fait raconter, que le premier socialiste était Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb, il ne savait pas où il allait, il ne savait pas où il était, mais il faisait tout ça aux frais des contribuables.
J'ai beaucoup apprécié, alors j'ai énormément goûté cet épisode, c'est celui du Noël, un Noël bien particulier.
Ouais.
Alors c'est le Noël au cours duquel le père de Tommy offre un poste radio à la famille, ça c'est suprême, suprême cadeau, très important aussi, la guerre des ondes.
La télévision de notre époque,
absolument.
Hein, la radio, c'était, ou le magnétoscope, la radio arrive, c'est aussi la voix du monde qui arrive dans la maison, et le divertissement, donc le père veut absolument offrir un poste radio à toute la famille pour Noël, mais il a pas les moyens, donc il va le bricoler avec diverses choses récupérées à droite et à gauche. Et dès qu'ils allument la radio le soir de Noël, il y a la voix de Churchill qui arrive, donc ils se mettent tous à entonner l'hymne national. Et puis après, ils sont chassés par très vite le signal d'alarme des bombes, et ils vont tous se réfugier donc dans un manoir. Il y a un aristocrate qui a un manoir dans leur quartier, et il accueille toute la population au troisième sous-sol de son manoir, où il y a une grande piscine, et ils vont tous passer Noël là ensemble, et dans une atmosphère un peu onirique.
La piscine, donc, dans les sous-sols
c'est
du manoir de Lord Papoum.
Lord Papoum.
La rue est un cinéma permanent. Il y a aussi cet épisode que je trouve absolument savoureux, où notre Tommy, bien sûr, ne reconnaît pas Londres complètement détruite, transformée à cause des destructions et des bombardements.
Et du brouillard.
Alors ça aussi, le fameux fog, bien sûr. Et comment s'orienter dans un Londres un peu en ruine?
Ah oui, il demande à un policier, je cherche la direction d'Hyde Park, et on est perdu, il est avec ses copains, on est perdu, il y a du brouillard, il y a des cratères partout, il n'y a plus de maison. Et le policier lui dit, vous voyez le cratère là, vous faites deux pas vers ce cratère là, ensuite vous faites quatre pas, vous avez un autre cratère de but, ensuite vous faites cinq pas, vous avez un autre cratère de but, puis vous faites six pas sur la gauche, il y a encore un cratère de but un peu plus petit, puis il y a le cratère de but devant Marble Arch, et c'est de l'autre côté de l'autre cratère de but qu'il y a le parc. Enfin voilà, c'est... Je l'écris mieux que je le raconte, mais c'est l'idée là.
L'esprit est bien là, Jérôme Attal. Tommy, nous l'avons dit, a des désirs de devenir écrivain. Il y a cette phrase que je vous soumets une fois de plus, Jérôme Attal. L'écriture, de mon point de vue, c'est un peu le bonbon magique de l'existence.
Ouais, il y a différentes strates. Ça fait référence au bonbon qu'on a dans l'enfance, où c'est une boule magique où on la mange et il y a plusieurs goûts qui arrivent. Et l'écriture, c'est ça, c'est qu'on peut recréer indéfiniment un moment. On peut le prendre sous tous les angles. On peut en décupler la saveur. On peut passer par des pistes qu'on n'a pas explorées dans la vraie vie. On peut retrouver une forme de courage dans l'écriture.
Jérôme Attal, page 87, je vais vous demander de prendre le roman. J'aimerais que vous nous décliniez le fameux repas de Noël.
Ah oui.
Entre donc le roi George et le Premier ministre, Sir Winston Churchill.
Oui, alors ce qu'il faut que vous racontiez, c'est que toutes les semaines, le roi George et Churchill se rencontrent dans une espèce de lieu sécurisé à Buckingham Palace. Et dans ce lieu, ils déjeunent. Et là, ils ont imaginé un menu. Donc, en entrée, il y a une tête de Goering vinaigrette garnie de brocoli frisé. Ensuite, il y a des œufs gobels fort indigestes. Ensuite, il y a du rommelsteak. Le rommelsteak avec une petite déconvenue de patates. Et en dessert, une crème dessert Eva Braun à chaleur variable.
Voilà donc un sacré menu. En tout cas, j'aimerais bien savoir quel goût peut avoir la crème dessert Eva Braun à chaleur variable. En tout cas, le roman de Jérôme Attal que vous venez d'entendre est un délicieux roman. C'est un bouquet d'originalité, de fraîcheur et de drôlerie. Je rappelle le titre, Les Jonquilles de Green Park, et c'est un roman disponible en librairie aux éditions Robert Laffont. Jérôme Attal a fait paraître un certain nombre d'ailleurs de romans qui sont toujours disponibles, notamment celui-ci au titre vraiment original et drôle, L'histoire de France racontée aux extraterrestres. Nouvelle escale en chanson, merci d'être ce soir avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, c'est Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire sur Radion. Juste après l'intermède musical que nous allons vous proposer, nous tendrons notre micro à Marie-Thérèse Mutin, ancienne militante socialiste, qui vient de faire paraître Une lente agonie. C'est une autobiographie politique à travers laquelle elle analyse les tourmentes que traverse le Parti Socialiste. Bonne soirée, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et vous écoutez Radion.
Gostaríamos aqui de deixar um abraço bem apertado para os nossos ouvintes e telespectadores. E também deixamos aqui uma homenagem à nossa querida Estação Primeira de Mangueira. Uma boa tarde.
Quem foi que disse que lá cena na Mangueira?
Eu, hein?
Comme je vous l'avais annoncé juste avant l'intermède musical, un livre qui nous conduit sur les chemins de la politique. C'est effectivement Une lente agonie, un ouvrage de Marie-Thérèse Mutin. Marie-Thérèse Mutin est dijonnaise, elle a adhéré au Parti Socialiste en 1971 et de 1977 à 1990, elle est responsable de la Fédération de Côte d'Or du Parti Socialiste. Elle a participé de 1979 à 1998 à la direction nationale du PS. Elle a donc connu à un poste clé la montée en puissance de ce parti, puis dès 1982 son érosion jusqu'à la déliquescence actuelle. Marie-Thérèse Mutin.
Il suffit d'écouter les infos maintenant, il suffit de regarder le paysage politique français et de s'apercevoir que les partis, non, pas seulement le Parti Socialiste, mais les partis sont morts, quoi. On n'en sortira plus rien, aussi bien à droite qu'à gauche. Et au Parti Socialiste, malheureusement, je pense que... Là, ma conclusion, c'est laisser les morts enterrer les morts. C'est-à-dire laisser ceux qui veulent continuer à rester dans ce parti, souvent pour des investitures à la députation, s'entretuer. Et puis, il faut essayer de recréer quelque chose à côté. Voilà, c'est ce que je pense.
Alors, en tout cas, vous tirez un constat assez préoccupant, puisque vous pensez qu'on ne peut plus espérer un sursaut salvateur des partis actuels englués dans leur médiocrité et leur mesquinerie.
Oui.
Le message est fort, virulent.
Eh bien, oui, c'est vraiment, vraiment ce que je pense. Il n'y a pas de raison de se voiler la face, quoi. Moi, j'ai connu un parti socialiste triomphant, avec des gens extrêmement désintéressés, des militants fabuleux, dont on ne parle jamais, hein, bien sûr, et avec des hommes politiques qui tenaient la route à l'époque, hein, intellectuellement parlant, je veux dire, Mitterrand, Jox, Poprenne, Chevènement, Rocard, même si on n'était pas d'accord tout le temps, c'était quand même des gens avec qui on avait plaisir à débattre, hein, pour faire la politique. Et surtout, en 71, de 71 à 81, on avait un projet d'avenir, un projet de société, changer la vie des gens et non pas la nôtre. Et nous, on y croyait, hein. Alors évidemment, le réveil a été un peu rude après 80, surtout après 82, disons, parce que de 81 à 82, il y a eu des avancées. Et puis après, ben, on s'est aperçu que ça commençait à décliner, quoi. Jusqu'à maintenant.
Alors, vous êtes persuadé que la société est mûre pour une nouvelle aventure démocratique, mais quel visage va prendre cette nouvelle aventure démocratique ?
C'est bien ça le grand problème, c'est que quand on est arrivé en 71, quand le Parti Socialiste s'est créé en 71, il s'est créé à côté du Parti Radical, qui était la grande force de gauche de la Troisième République, et qui était dans l'état où est le Parti Socialiste à l'heure actuelle, au moment où le Parti Socialiste naissait. Simplement, là, le Parti Socialiste meurt, mais malheureusement, on ne voit rien à côté qui va surgir, quoi. On ne voit pas de projet, on ne voit pas d'homme capable de mener un projet d'avenir. Et ça, c'est compliqué. Cependant, les gens ne sont pas désintéressés de la politique, puisqu'il y a énormément de petites initiatives de mouvements citoyens, d'initiatives d'une autre consommation, par exemple Nuit Debout qui va atterrir sur rien parce qu'eux ils refusent les partis politiques. Or, un parti, c'est essentiel pour la démocratie. On ne peut pas faire autrement que d'avoir des partis. Enfin, du moins, c'est mon avis. Et donc, je me dis qu'à un moment donné, va surgir quelque chose. On ne peut pas rester dans le vide. C'est pas possible.
Mais la multiplication de toutes ces candidatures pour les primaires, que ce soit à droite ou à gauche, est-ce que cela dessert vraiment les partis politiques ?
Mais évidemment, la primaire en elle-même dessert les partis politiques. Un parti politique, ce sont des gens qui ont travaillé ensemble, qui ont fait un projet ensemble. Là, on était, au moment où on a gagné en 81, 200 000 seulement. C'est pas énorme sur la France. Et on avait, mais tous les militants avaient discuté du projet. C'était un projet collectif. Et donc, on se dégageait un homme pour porter ce projet. Tandis que maintenant, ils ont tous il n'y a plus de projet, il faut bien le dire. Ils ont tous des petites propositions à faire. La primaire, moi ça a toujours, j'ai toujours pensé que c'était une erreur. C'était une erreur parce que... À quoi bon militer dans un parti si la personne qui va donner un euro va être capable de désigner le candidat ? Or, le candidat dans un parti, il est candidat pour porter un projet. On est bien d'accord. En principe, ça devrait être comme ça. Du moins, c'était comme ça avant. Et là, alors le militant, il se sent complètement inutile. D'ailleurs, il est devenu inutile parce que tous les élus qui forment une caste maintenant, ils ne forment plus les militants. Parce qu'un militant formé, c'est un militant qui peut vous revenir dans la figure, hein, s'il n'est pas d'accord, voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus de formation. Et le militantisme a perdu de sa créativité, disons.
Alors, qu'est-ce que vous avez raté, vous, en votre temps, Marie-Thérèse Mutin ? Parce que je rappelle quand même, vous adhérez donc au PS en 71. De 77 à 1990, vous êtes responsable de la Fédération de Côte d'Or, donc du Parti Socialiste. Vous avez aussi participé à la direction nationale. Vous avez accueilli François Mitterrand à Dijon. C'était en quelle année ? Avant la présidentielle de 81.
On l'a accueilli plusieurs fois, hein, parce que comme il était bourguignon aussi, il est venu très souvent à Dijon.
Hein, l'homme de Château-Chinon.
Oui, voilà. On l'a, notamment un grand meeting en 81 avant les élections. Mais
alors qu'avez-vous raté si vous avez raté quelque chose,
Marie-Thérèse ? Moi personnellement,
oui, ou les militants socialistes en général.
Ben, c'est-à-dire on a raté la prise du pouvoir. Voilà ce qu'on a raté. On a raté la prise du pouvoir.
On est arrivé en 81. Oui, 81.
Il y a arrivé en 81. Moi, je parle en militante. Hein. Arrivé en 81. Moi, je vois bien dans ce que j'écrivais comme éditorial, je disais, on a gagné le pouvoir politique, mais on n'a pas le pouvoir économique, donc il faut rester vigilant, donc il faut continuer à se mobiliser. Mais les militants, ils se sont dit, c'est les nôtres qui sont au pouvoir, on est tranquille, quoi, on a un peu baissé le pied. Et puis, les ministres, ils n'ont pas eu tellement envie qu'on se mobilise, nous, les militants, parce qu'on est quand même des empêcheurs de tourner en rond. Hein, on était très habitués à critiquer les lois. Et quand elles nous arrivaient, les lois de nos propres camarades, on avait tout de suite la critique possible. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que c'est quand même une reconversion d'esprit, hein, de passer de l'opposition à la prise de pouvoir. Et on s'est ingénié à faire taire les militants. Et à partir de là, voilà. Et moi, avec toute ma bonne volonté, voilà. Et au Parti Socialiste, quand vous n'êtes pas d'accord avec la majorité, eh ben vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez vous battre comme ça. Vous avez des succès d'estime, mais c'est tout.
Des succès d'estime et c'est tout, bah c'est déjà pas si mal, allons donc. C'était Marie-Thérèse Mutin pour Une lente agonie, son dernier ouvrage aux éditions Mutine, une autobiographie politique. Elle était donc présente le week-end des 24 et 25 septembre dernier lors de la 9e édition de Livre en Vigne qui se tenait entre Beaune et Dijon au château du Clos de Vougeot. C'est la fin pratiquement de ce numéro 268 de Wagon Livre qui était consacré ce soir au compte-rendu de la 9e édition de Livre en Vigne. Je ne voudrais pas oublier de saluer avec beaucoup d'affection, d'estime et de tendresse Evelyne Philippe, l'organisatrice, de remercier les auteurs qui nous ont accordé un petit peu de temps. Et puis rappeler qu'au cours de cette 9e édition de Livre en Vigne, l'invité d'honneur était cette année Jean-Marie Roy de l'Académie française que vous avez entendu. Avant de nous séparer, je rappelle donc Pays de Bourgogne, le dernier numéro. Je voudrais aussi rappeler le livre de notre ami Alain Robert, La cuisine au temps de Colette. C'est dans le dernier numéro de Pays de Bourgogne. Actualité éditoriale, les éditions Plomb font paraître un dictionnaire amoureux de Tintin. C'est sous la plume de Albert Algout qui est un grand tintinophile devant l'éternel. Et puis toujours dans la collection des dictionnaires amoureux aux éditions Plomb, il faut mentionner le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg sous la plume de Vladimir Fedorovski. Rendez-vous de Wagon Livre la semaine prochaine, mercredi 2 novembre. Nous serons avec Violette Cabessos qui signe un polar aux éditions Albin Michel et qui a pour titre Portrait de groupe avec parapluie. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.